Cet après-midi, je vais aborder avec vous la troisième et la quatrième démarche que je vous proposais pour découvrir le cœur de Jésus miséricordieux. Donc la troisième démarche, c'est vénérer l'icône du Christ miséricordieux. Il y a un fait étonnant, si vous voulez, c'est le seul cas que nous avons dans l'histoire de Sœur Faustine où le Seigneur demande de le représenter. Et avec des détails assez précis, comme vous le verrez. Alors, avant d'aborder cette icône du Christ miséricordieux, il faut dire un mot, sans vouloir y accorder quand même trop d'importance, sur l'histoire des deux tableaux du Christ miséricordieux. Vous avez le premier tableau, c'est celui qui a été fait par le peintre Kazimir Rovski, oui, je ne me trompe pas, en 1934 à Vilnius en Lituanie. J'ai indiqué ça sur votre feuille là de route, avec les indications de Sœur Faustine. Mais ce tableau, n'oubliez pas que la Lituanie était en territoire soviétique à l'époque, a été caché, il était abîmé, on a des photos, vous pouvez aller, vous trouverez ça sur Internet, et il a été restauré au moins deux fois pour... mais, si vous voulez, c'est le premier tableau. Alors, entre-temps, 10 ans après, 5 ans après la mort de Sœur Faustine, il y a eu un autre peintre, Adolf Hila, qui a pris contact avec la congrégation des Sœurs de la Miséricorde, mais cette fois un couvent en Pologne, donc à Cracovie, Lagiewniki, pour leur offrir un tableau qu'il avait fait pour remercier le Seigneur d'avoir protégé sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, lorsqu'il a eu l'idée de faire ce tableau, les sœurs lui ont dit, mais écoutez, on va vous montrer une représentation du premier tableau qui a été fait avec Sœur Faustine. On va vous lire les passages dans le petit journal, dans le texte, je mets toujours PJ, ça veut dire petit journal, de Sœur Faustine. On va vous montrer les passages où elle parle de ce tableau. Mais comme ça arrive avec les artistes, il n'en a fait qu'à sa tête. Et lui-même avait peint là-bas, au lieu d'avoir un encadrement noir, c'était plutôt des champs avec des arbustes. Alors le père Sopoko, qui était le père spirituel de Sœur Faustine, quand il a vu ça, il a dit, écoutez, il faut supprimer les prairies et les arbustes. Et on va mettre un carrelage là-bas, d'ailleurs, qu'on voit à peine. Alors, la grande différence entre les deux tableaux, c'est le regard de Jésus. Comme je vous l'ai indiqué dans votre feuille de route, Jésus avait dit à Faustine, « Mon regard sur cette image » est le même que celui que j'avais sur la croix. Donc, c'est ce qui est ici. Tandis que vous voyez ici, le Christ nous regarde. Alors maintenant, je n'entre pas dans un grand débat. Au point de départ, c'est surtout ce tablier-là qu'on a connu et qu'on trouve parfois plus attirant que l'autre. Alors, les sœurs elles-mêmes ont eu un problème parce qu'elles avaient les deux tableaux. Heureusement que le Seigneur a tranché la question, c'est qu'il y a eu autant de grâces données par l'un et par l'autre tableau. Alors voilà, ça c'est la meilleure manière de résoudre un grand débat. Mais il reste qu'il y a peut-être un choix à faire. Il y a une tendance, je vois surtout en France, où on met en valeur le premier tableau que vous avez là-bas. Alors, si vous voulez, maintenant nous allons regarder un peu de près cette icône du Christ miséricordieux. Sur votre feuille de route, donc les feuilles que je vous ai données, il y a un premier texte qui est cité. C'est ce qui s'est passé pour Sœur Faucy. Un soir, alors que j'étais dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir, la seconde touchant son vêtement sur la poitrine. De la tunique entrouverte sur la poitrine sortaient deux grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Jésus me dit, « Peins un tableau selon l'image que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire qu'on honore cette image d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. » Alors, je vais reprendre différents points de ce texte. Il y a d'abord l'ordre de Jésus à Sœur Faustine, « Peins un tableau selon l'image que tu vois. » Vous voyez que, si ça nous arrivait, je crois que nous aurions un choc, disant « Seigneur, qui suis-je ?» pour faire une peinture de toi. Est-ce qu'elle va vraiment correspondre à ce que tu m'as montré? Alors, c'est ce qui explique le drame de Sœur Faustine, c'est qu'un jour, parce qu'elle a travaillé 6 mois avec le fameux peintre Kazimierz Rorski, eh bien, elle rentre, elle voit la peinture, elle fond en larmes, elle se réfugie à la chapelle. Et je vous lis maintenant le texte. « Qui te peindra aussi beau que tu l'es ?» se plaint-elle à Jésus, qui lui répond aussitôt, et ça c'est une phrase très importante, « Ce n'est ni dans la beauté des couleurs, ni dans celle du coup de pinceau que réside la grandeur de cette image, mais dans ma grâce. » Mais dans ma grâce. Alors, je vous dis ici, dans le cas de Sœur Faustine, il y a un fait tout à fait nouveau, c'est que le Seigneur lui demande de peindre ce tableau, ou en tout cas de le faire peindre. Donc vous vous rappelez aussi qu'à Parlémonial, le Seigneur demande qu'on vénère son cœur de chair et il accorde aussi des grâces et des bénédictions à l'image du Sacré-Cœur qui sera exposée dans les familles, dans les communautés, etc. Il y a une promesse où c'est les paroles mêmes de Jésus. Donc, ça montre déjà qu'à Parlémonial, Jésus accordait une grande importance à la vénération d'images. Et à la fin, tout à l'heure, on pourrait un peu s'interroger, vous direz, mais c'est providentiel, nous sommes dans le siècle audiovisuel, mais voilà, le Seigneur, lui, pour l'évangélisation, adapte ses moyens. Personnellement, je crois qu'il y a, pas seulement depuis notre siècle audiovisuel, mais un grand enjeu dans l'image religieuse. Hein, rappelez-vous l'importance chez nos frères d'Orient de l'icône. Et chez nous, par exemple, prenez les sculptures des cathédrales, les vitraux, etc. Bon, donc voilà, ne l'oubliez pas quand il y a des grandes discussions sur les représentations du cœur du Christ, du Sacré-Cœur, j'en ai connu. Ce qui est important, c'est la grâce que le Seigneur a attachée à la vénération de ces images. Alors, pendant plusieurs années, j'ai donné avec le père Édouard Lotin, parlémonial, des sessions pour des jeunes de 18 à 35 ans sur le cœur de Jésus et la vie chrétienne. Et je me rappelle toujours, dans l'Eucharistie finale, le père Lotin qui présidait l'Eucharistie présentait donc une image du Sacré-Cœur à la vénération des jeunes qui étaient là, garçons et filles. Et donc ça se faisait à parlémonial, mais pas dans le cadre explicite du renouveau, c'était là. Eh bien, moi j'ai été étonné. Plusieurs fois, j'ai vu des jeunes qui étaient tellement touchés par cette image, éclater en larmes. Tout d'un coup, on n'aurait jamais deviné, on se dit. Donc, si vous voulez, on est frappé de voir comment, à travers le langage de l'image, le Seigneur peut toucher les cœurs. Et je dirais même, j'anticipe un peu ce que je vous dis, mais tout à l'heure, quelqu'un a rappelé une phrase, une très belle phrase de Sœur Josepha. « Je te regarde, dit Jésus, tu me regardes. » Eh bien, on peut faire cette expérience avec l'icône du Christ miséricordieux ou l'image du Sacré-Cœur. Bon, il y a des jours où nous sommes moins en forme pour prier, plus fatigué, mais être en présence de Jésus grâce à une image, se laisser habiter par l'image. Il y a tant d'images qui nous habitent dans notre monde qui ne sont pas toujours très bonnes pour nous. Eh bien ici, c'est une image qui a un pouvoir de guérison pour nous. Bon, alors maintenant, reprenons, si vous voulez, quelques détails du tableau, enfin des détails importants. Donc, premier point, si vous voulez, la tunique qui est entrouverte. Hein. Vous suivez, prenez cet exemple-là, c'est peut-être plus fort. Eh bien, c'est une tunique blanche qui nous met en présence de Jésus ressuscité. Et si vous regardez, les mains de Jésus, ses pieds, son côté, portent les blessures de sa passion. Mais c'est Jésus ressuscité, tel qu'il apparaît à ses disciples, dans un premier temps, le soir de Pâques, et puis 8 jours après, à ses disciples avec Thomas. Et la tunique entrouverte nous laisse deviner le lieu de son cœur transpercé, d'où a coulé le sang et l'eau sur la croix. Alors, voyez ici, il y a un point important, c'est que avec sœur Faustine, c'est l'icône du dimanche de Pâques qui nous est offerte. Rappelez-vous, c'est le jour de la fête de la Miséricorde. Alors qu'habituellement, toujours dans la spiritualité du cœur de Jésus, on se réfère plutôt à la scène de la crucifixion, à Jean 19, tandis qu'ici nous sommes dans Jean 20. Point suivant, les mains du ressuscité. Eh bien, la main droite pose un geste de bénédiction. Et ceci fait écho à la parole du Seigneur, « Bénissez, ne maudissez pas. » Et poser un geste de bénédiction, c'est poser un geste de miséricorde. Et la main gauche, alors, vous avez vu, indique discrètement le lieu du cœur. Alors maintenant, second point suivant, c'est les deux grands rayons, l'un rouge, l'autre légèrement bleu pâle, qui sortent de ce lieu qui est montré par Jésus, c'est-à-dire de son cœur. Et ici, il y a peut-être un point, si vous voulez, important. Vous savez que nos frères d'Orient, parmi lesquels se trouvent les orthodoxes, sont toujours choqués par une représentation du Sacré-Cœur où il y a une monstration du cœur de Jésus. Nous sommes habitués, hein, je prends dans mes trésors ici une autre, hein, voyez, ça c'est ce qu'il y a de plus classique. Eh bien, les chrétiens d'Orient sont toujours choqués par ça, on ne montre pas. Alors ici, c'est frappant que le Seigneur n'efface pas le cœur transpercé, mais le suggère. Alors, sœur Faustine, sur le conseil de son confesseur, donc toujours l'illustre abbé Sopoco, qui a été aussi béatifié et même canonisé, demande au Seigneur l'explication. Et je vous ai donné le texte. Ces deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur, après son agonie sur la croix, fut percé par la lance. Donc je vous disais, nous sommes en présence de Jésus ressuscité qui apparaît le soir de Pâques à ses disciples, mais le ressuscité, c'est le crucifié, celui dont le cœur a été transpercé, d'où a jailli le sang et l'eau. Alors l'eau signifie le baptême parce que c'est le baptême qui justifie des âmes et le rouge signifie donc le sang de l'Eucharistie parce que l'Eucharistie est la vie des âmes. Donc c'est en voyant le fruit de l'eau et du sang que l'on peut découvrir quels sont les sacrements qui sont représentés. Mais alors, il y a un point très important, c'est que vous avez vu comment ces deux rayons sortent du cœur de Jésus, des entrailles de ma miséricorde, dit Jésus, et produisent un rayonnement sur ceux qui contemplent l'icône. Il y a une parole de Jésus que je cite, une parole du Père, dit à sœur Faustine, « Ma miséricorde est passée dans les âmes par le cœur humano-divin de Jésus comme le rayon de soleil à travers le cristal. » Et sœur Faustine, un jour, s'écrit en contemplant le Christ miséricordieux, « En laissant ouvrir ton saint côté, tu nous as ouvert l'inépuisable source de ta miséricorde, tu nous as donné ce que tu as de plus cher, le sang et l'eau de ton cœur. » Alors, sœur Faustine relate plusieurs expériences intéressantes à ce sujet. Je vous en rappelle une. Donc, c'était, je crois, la fête de la miséricorde. On avait exposé le Saint-Sacrement et derrière, on avait mis le fameux tableau. Eh bien, à un moment donné, elle l'a vu, si vous voulez, que de la poitrine de Jésus, de son cœur, hein, rayonnait cette grâce du baptême, cette grâce de l'Eucharistie, non seulement sur ceux qui étaient là, mais sur le monde entier. Plusieurs fois, elle a fait cette expérience. Donc, ça veut dire qu'il y a une grâce tout à fait particulière qui est donnée par le tableau. Et je vous notais ce texte. Donc, le Seigneur lui dit, les deux flots lumineux traversent l'hostie et se répandent sur le monde entier. J'entendis ces paroles, poursuit sœur Faustine, à travers toi, comme à travers l'hostie, les rayons de ma miséricorde se répandront dans le monde entier. Sœur Faustine a cette prière que j'ai notée aussi sur votre feuille. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme d'une source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Et ceci nous amène au point suivant, c'est l'inscription que Jésus avait demandé de mettre en dessous du tableau. Jésus, j'ai confiance en toi. Voyez de nouveau ce qui est frappant ici, cette invocation existait auparavant, peut-être que certains d'entre vous l'ont en tête, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Eh bien ici, on s'adresse, à la demande même du Seigneur, uniquement à Jésus. De nouveau, si vous voulez, c'est comme Le cœur de Jésus est présent, on ne le montre pas, on ne l'affirme pas, par discrétion. Et là, je vois une intention œcuménique du Seigneur. Parce qu'en effet, cette icône du Christ miséricordieux se répand en Orient, enfin chez les chrétiens d'Orient et en particulier les orthodoxes.
Ils ont peint des icônes. Hein. Il y a des icônes vraiment dans la tradition orthodoxe de Christ miséricordieux.
Oui, qu'il. Mais.
Peint d'après ça, j'imagine.
Oui, oui. C'est après ceci. Alors, ce qui est frappant, si vous voulez, aussi dans cette invocation, c'est le mot « confiance » qui indique l'attitude spirituelle qui correspond au don de la miséricorde divine. C'est l'attitude fondamentale pour accueillir la miséricorde divine. Dernier point, dans beaucoup de passages, mais là je n'ai pas voulu m'étendre, mais Sœur Monique nous montre ici, dans, par exemple, les grâces qui sont promises par le chapelet, on trouve les grâces semblables aussi données par la vénération d'icône. Par cette image, dit Jésus, j'accorderai beaucoup de grâces, que chaque âme ait donc accès à elle. Tout à l'heure, je vous signalais l'importance de l'image pour toucher notre cœur. Bien sûr, il faut lire l'Écriture sainte. Il faut lire aussi les témoignages de la tradition qui nous révèle aussi ce mystère de la miséricorde. Mais il y a peut-être un moyen très humble, c'est de vénérer l'icône du Christ miséricordieux. Sinon, notre spiritualité, notre vie chrétienne profonde est trop cérébrale. Elle doit nous saisir tout entier, jusque dans notre affectivité profonde, comme je l'expliquais ce matin. Alors, la question que je vous pose au terme de cette démarche, est-ce que je puis dire en vérité, Jésus, j'ai confiance en toi ? Jésus, je mets ma confiance en toi. Jésus, apprends-moi à te faire confiance. Faire confiance, vous le savez, c'est tout un chemin. Alors maintenant, je passe au dernier point qui est l'adoration eucharistique. Donc pour l'adoration eucharistique, je vais me référer à Sœur Marguerite Marie. Je vous disais ce matin, l'adoration eucharistique est née, s'est développée dans l'Église d'Occident à partir du XIIIe siècle, qui est le siècle de l'institution de la fête Dieu, suite aux révélations du Seigneur à Sainte Julienne de Cornillon. Mais il faut reconnaître que la spiritualité du cœur de Jésus, comme nous allons le voir, a vraiment suscité un renouveau de l'adoration eucharistique. Comme vous avez vu le constater, après le Concile Vatican II, qui avait remis, avec raison, en valeur la célébration eucharistique elle-même, de différentes manières, ne fût-ce que en passant à la langue de chaque région, de chaque pays. Ce qu'il y avait d'adoration eucharistique pour le peuple chrétien, c'est-à-dire ces fameux saluts au Saint-Sacrement, je crois que la plupart d'entre vous ont encore connu ça, soit dans les paroisses ou dans leur communauté religieuse, sont tombés en désuétude. Et même ce qui est parfois pénible, c'est que il arrive que certains prêtres disent « enfin, l'adoration eucharistique, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui, c'est dépassé, etc. » Mais le Seigneur a toujours beaucoup d'humour, c'est-à-dire c'est au moment où on fait ces grandes déclarations que renaît l'adoration eucharistique, et je crois que vous en avez des multiples exemples en tête, dans des groupes de prière, dans des paroisses, dans des communautés, évidemment sous des formes nouvelles, mais ça c'est la vie. Quand la vie grandit, on n'est pas là en train de se dire en 1920 je mettais tel chapeau, il faudrait que je retrouve le chapeau. Non, non, on trouve un autre chapeau. Alors, la question qu'on peut se demander, après avoir revisiter ce que dit le Seigneur à Marguerite Marie, que peut apporter la spiritualité du cœur de Jésus à ce renouveau de l'adoration eucharistique. Vous vous rappelez peut-être qu'à la fin de Toussaint 2006, c'est une des deux choses qu'avait proposé le cardinal Daniels à l'époque. Il encourageait les paroisses et aussi, sans le dire tout haut, les communautés religieuses, à retrouver l'adoration eucharistique sous des formes qui sont adaptées. Parlons maintenant de Marguerite Marie. Donc suivez sur votre feuille de route les textes que je vais lire de Marguerite Marie. Donc vous savez que c'est toujours au pied du Saint-Sacrement que Marguerite Marie a reçu du Seigneur ses visions, ses révélations, sa mission. Et la grande apparition, c'est celle de 1675. Je vous lis le texte. Étant une fois devant le Saint-Sacrement, je me sentis touché du désir de lui rendre amour pour amour. Ça, c'est la grande expression de la spiritualité du cœur de Jésus. Depuis le début, savoir découvrir avoir découvert l'amour de Jésus pour nous, alors quand on a découvert cet amour, on désire aussi à notre tour aimer Jésus. Et entre nous, si vous voulez, si on n'a pas fait cette expérience de découvrir l'amour de Jésus, comment peut-on mener une vie chrétienne? Déjà, Saint Jean disait, lui, rappelez-vous, dans la première épître, lui nous a aimés le premier. Donc, étant une fois devant le Saint-Sacrement, je me suis senti touché de désir de lui rendre amour pour amour. De nouveau, le Christ révèle l'amour que son cœur porte aux hommes, comme il l'a fait dans les apparitions précédentes. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Une fois encore, il dévoile la souffrance de son cœur blessé par l'ingratitude des hommes. Et pour reconnaissance, dit-il, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, en précisant, et c'est ça qui est nouveau, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, par leur mépris et les froideurs qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour qu'est l'Eucharistie. Et il ajoute, se met encore plus sensible, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent aussi. Donc, si vous voulez, Marguerite Marie, témoin de cet amour du Christ dans l'Eucharistie, aura un double désir, comme elle l'a déjà fait, c'est de rendre amour par amour. Et aussi le désir de réparer les outrages que le Christ reçoit dans le sacrement de l'amour. Donc il y a deux points, rendre amour par amour, et réparer pour soi-même, pour les autres. Et ici, je cite un texte du Père Gotin pour bien voir ce qui caractérise dans l'histoire de la spiritualité du cœur de Jésus le moment de parélémonial. À parélémonial, la réponse d'amour à l'amour de Jésus reçoit une note particulière, la réparation. C'est le désir, dit le Père Glotin, de rendre amour pour amour à l'amour rédempteur, bafoué et méprisé par ceux-là même qui auraient dû davantage l'aimer. Car le drame secret de ce cœur, Saint Jean l'affirme, c'est la trahison de l'ami, dont Jésus porta la blessure toute sa vie depuis le commencement. Saint Claude la Colombière, le guide spirituel de Marguerite Marie, comme vous savez, lorsqu'il fait son offrande au Sacré-Cœur de Jésus, sans doute après son séjour à Londres, qui a suivi son séjour à parélémonial, a ces simples mots pour exprimer ce qui caractérise l'expérience du Christ apparaît. Il aime et il n'est point aimé. Il aime et il n'est point aimé. Ça fait aussi écho à la parole de François d'Assise lorsqu'il rencontrait le sultan pour lui expliquer ce qu'était la religion du Christ. Il avait dit « L'amour n'est pas aimé. » Alors, comment est-ce que Marguerite Marie vivait l'adoration eucharistique? Je vous lis quelques textes. Devant le Saint-Sacrement, je me sentais tellement appliqué que jamais je ne m'y ennuyais. Chacun de nous, et moi le premier, nous ne pouvons pas dire ça. Il nous arrive parfois de nous ennuyer. Et j'y aurais passé des jours et des nuits entières, sans boire ni manger, sans savoir ce que je faisais, sinon de me consommer en sa présence, voilà une belle comparaison, comme un cierge ardent pour lui rendre amour pour amour. À une supérieure qui s'étonnait de ces longs temps d'adoration eucharistique, elle expliqua « Mon plus grand consentement est d'être devant le Saint-Sacrement où mon cœur est comme dans son centre. » Si vous voulez, une autre comparaison, mais c'est magnifique. Le Saint-Sacrement est devenu le centre de sa vie. Alors, chaque temps d'adoration était un moment privilégié de présence amoureuse. Ah, j'ai loupé un texte là. Ouh, là, même deux. Non, un. Donc, la Sainte souhaitait avoir plus de temps pour consommer en présence du Très Saint-Sacrement, qui est tellement le centre de mon cœur qu'il ne trouve de repos que là où il le sentira continuellement. Chaque temps d'adoration était un moment privilégié de présence amoureuse à son bien-aimé. En quittant la chapelle, la religieuse lui adressait cette prière. Ça, c'est une bonne prière que nous pouvons faire aussi. « Ô mon Jésus, ne pouvant demeurer en votre présence, j'aimerais mieux mourir que de me séparer de vous par le péché. Venez avec moi pour sanctifier tout ce que je ferai, puisque tout est pour vous. » Voyez, ça c'est admirable. On rencontre le Christ dans le Saint-Sacrement, on a des raisons pour ne pas rester. On ne peut pas rester. Eh bien, venez avec moi pour sanctifier tout ce que je ferai en dehors de la chapelle, puisque tout est pour vous. C'est ça qui donne la valeur de ma vie. C'est que tout est donné à vous. Alors, vous vous rappelez que dans les pratiques qui sont nées à Parlémonial, il y a l'importance de l'heure sainte. Tenir compagnie à Jésus une heure chaque premier vendredi du mois, au Christ en agonie au jardin de Gethsémani, alors que ses disciples pris de sommeil n'ont pu veiller une heure avec lui. Cette heure sainte se déroule toujours devant le Saint-Sacrement et est un acte de réparation pour les outrages que Jésus a endurés dans l'Eucharistie. Alors, pour terminer, je vous pose de nouveau une question. Quel est l'accent que je mets dans les temps où je fais de l'adoration du Saint-Sacrement? Marguerite Marie nous en suggère deux, il y en a d'autres. Mais le Seigneur vous montrera ce qui est important pour vous. Rendre amour pour amour, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est faire l'expérience que Jésus nous aime, qu'il s'est livré pour nous, comme dit saint Paul, il m'a aimé et s'est livré pour moi. Alors quand j'ai fait cette expérience, comment ne pas à mon tour aimer Jésus? Le second point, c'est réparer. Eh bien, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on voit ce qu'a représenté, après les révélations de Parlémonial, dans la vie de l'Église, cette adoration réparatrice. On peut dire que cette adoration avait un sens missionnaire. Et c'est ce qu'on voit encore maintenant. Vous avez un exemple. Vous savez que les sœurs de Mère Teresa ne commencent aucune de leurs journées sans avoir adoré pendant une heure le Saint-Sacrement. C'est la manière de se préparer à leur travail apostolique. Comme je vous disais tout à l'heure, la réparation nous concerne aussi personnellement. Nous ne sommes pas encore arrivés à la sainteté parfaite. Donc il est arrivé aussi qu'il y a eu des froideurs, de l'indifférence dans nos vies, pour lesquelles nous voulons réparer, mais nous portons aussi aujourd'hui, que ce soit dans nos familles, dans nos communautés, dans nos paroisses, si vous voulez, certaines souffrances, nos enfants, nos petits-enfants ne vont plus à la messe. Rares, sans doute, sont ceux qui adorent le Saint-Sacrement. Si vous voulez, ces négligences par rapport à l'Eucharistie, qui est le sacrement de l'amour de Jésus, peut nous faire de la peine, même nous blesser. Alors, nous n'avons pas jugé ni... Mais je crois à porter devant le Seigneur dans l'adoration ses souffrances pour réparer par un plus grand amour. Donc nous avons maintenant le temps de la prière et comme ce matin, je vous invite d'abord à vous mettre à l'écoute du Seigneur, de l'Esprit-Saint pour bien voir quel est le point que vous allez prendre dans la prière.